clair?
Oui, tout à fait, et c'est un super plan.
Ok, et hybride, ça veut dire qu'on peut tondre les cheveux?
Oui, bien sûr.
Et la barbe?
Oui, aussi.
Et la pelouse?
Ah non, quand même pas. Mais pour les cheveux et la barbe, la tondeuse hybride Wall avec 13 euros de réduction est à 24,90 euros du 7 au 18 mai pendant l'opération Beauté chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Il est 13h en direct sur Sud Radio.
Parlons vrai.
Le journal avec vous, François Germain, bonjour.
Bonjour à tous, Gabriel Attal à La Rochelle. Le Premier ministre a présidé la cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Il a annoncé la tenue en 2026 d'une grande exposition nationale sur ce thème pour commémorer les 25 ans de l'adoption de la loi sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Gabriel Attal a également rappelé la promesse d'Emmanuel Macron d'un mémorial dédié aux victimes de l'esclavage à Paris. Il sera érigé l'an prochain. Que s'est-il passé hier soir dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris? Deux policiers sont grièvement blessés, attaqués par un homme en garde à vue qui s'est emparé de l'arme d'un agent. Ce matin, l'un des deux policiers était toujours entre la vie et la mort. L'auteur des tirs a également été blessé par un tir de riposte, touché au thorax. Ses jours ne sont pas en danger. 65 cas de choléra recensés à Mayotte. Précision du ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, en déplacement sur l'archipel. À l'heure actuelle, 3700 personnes ont été vaccinées. Pour l'instant, un seul foyer de la maladie est actif. À Gaza, plus de 100 000 personnes ont fui Rafah, selon l'ONU, menacées par un assaut israélien. Quelques 30 000 personnes fuient la ville chaque jour. Ce matin, des tirs israéliens ont éclaté. En début de semaine, Tsahal larguait des tracts sur lesquels elle affichait son intention d'agir avec force contre les organisations terroristes. Le message était clair, quiconque reste dans la zone met en danger sa vie et celle de sa famille. C'est aujourd'hui qu'ouvre la plateforme en ligne pour obtenir son QR code lorsqu'on habite Paris, en prévision des JO cet été. Dans certains secteurs de la capitale, il faudra montrer patte blanche pour pouvoir passer. Ce sont notamment concernés les Parisiens qui habitent aux abords du Trocadéro ou du Champ de Mars, ainsi que le long de la Seine. Si le site ouvre aujourd'hui, les premières inscriptions, elles, auront lieu lundi. Et puis du tennis à suivre aujourd'hui, deuxième tour du Masters 1000 de Rome. Plusieurs Français sur les courts, notamment Corentin Moutet face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, ainsi que Caroline Garcia opposée à l'italienne Elisabetta Cocciaretto. Voilà pour l'info, excellent après-midi.
La météo Sud Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Et bien voilà, une belle journée estivale. Les nuages bas de ce matin, les nuages d'altitude également, tout cela se dissipe en grande partie. C'est le soleil qui domine, du soleil, un temps vraiment calme, ce qui nous donne des températures très estivales cet après-midi. Alors, pratiquement partout, il fera plus de 20 degrés, avec des valeurs atteignant 19 à 20 degrés du côté de Cherbourg, 20 à 24 degrés sur le reste de la moitié nord, 24 sont prévus à Brest, à Rennes, mais également à Paris ou à Strasbourg, à partir du Limousin, 27 degrés, ainsi que du côté de Clermont-Ferrand, 28 degrés. Et bien dans le sud-ouest, il fera de façon générale les 25 à 29 degrés, 28 degrés, voire plus sur le sud-est. Vous voyez, c'est une journée très calme et très estivale. Demain d'ailleurs, à peu près le même scénario, avec donc le matin un petit peu de fraîcheur matinale, mais tout de même raisonnable, de 7 à 15 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien demain, on pourrait localement atteindre les 29 à 30 degrés dans le sud-ouest.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com, présente
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Et oui, l'hymne national de l'Arabie Saoudite, André Bercoff, le futur roi de ce royaume, tient le destin du Moyen-Orient entre ses mains, André. Et Christian Chesneau et Georges Malbruno, qui seront nos invités dans un instant sur Sud Radio, ont enquêté sur ce prince imprévisible. André.
Alors d'abord, je tiens à vous dire que ça ne peut être que intéressant, parce que n'oubliez jamais que Chesneau et Malbruno sont les Dupont et Dupont du Moyen-Orient. C'est Erckmann et Chatrian, les frères Goncourt, Barbès et Rochechouart, Otis et Piffre. Quand vous voulez savoir ce qui se passe au Moyen-Orient, que ce soit sur le Qatar, que ce soit sur le Liban, que ce soit sur le Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, vous lisez chez Noé Balbruno, vous ne serez... Non, je le dis vraiment parce que je le pense, j'ai lu la plupart de leurs livres, on n'est pas déçu parce qu'il y a toujours le détail qui tue, le détail qui change, etc. Et là, on est tombé sur quoi ? Sur le Orson Welles du Moyen-Orient, sur le Falstaff absolu, alors qu'il n'a pas l'obésité, bien sûr, qui MBS. Et MBS, c'est pas une multinationale, c'est pas une banque, c'est pas une banque centrale, c'est Mohamed Ben Salman qui, incontestablement aujourd'hui, joue un rôle capital dans le devenir du Moyen-Orient.
Et oui, avec MBS, effectivement, l'Arabie pourrait devenir le royaume de la démesure, André. Mais qui est-il, un prince héritier jeune et moderne qui révolutionne ce pays archaïque ou un despote impulsif qui ne tolère aucune opposition sur cette terre ? On vous dit tout dans un instant avec Christian Chesneau et Georges Malbruno. Alors restez avec nous, ne ratez pas ce rendez-vous.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai. Vrai Sud Radio.
Parlons vrai.
Desperados, avec sa bière Desperados Tropical, fait sa révolution. Pourquoi ? Parce que saveur rhum, citron vert et passion. Saveur rhum, hein ? Clairement, on change d'horizon. Desperados Tropical, ça a le goût de l'exotique, cette fraîcheur atypique, ça rappelle les tropiques. Desperados Tropical, sa recette au saveur rhum est colorée, fruitée, mais surtout, surtout, elle est signée Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Sud Radio Périgueux.
104.9.
Sud Radio.
À moins de 100 km de Paris, poussez les portes de la Champagne. Découvrez un territoire préservé d'une richesse étonnante. Visitez ces incontournables vignobles classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Explorez le château médiéval et les trésors de l'Hôtel Dieu à Château-Thierry. Appréciez cette terre d'artistes riche en activités culturelles, comme la maison de Camille et Paul Claudel ou le château des Princes de Condé. Les portes de la Champagne, un territoire exceptionnel où se mêlent histoire, nature, vignobles et patrimoine. Préparez votre séjour sur lesportesdelachampagne.com.
À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
À tous ceux qui... Je reprends. À tous ceux qui...
Il n'y arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends.
À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en deux bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bon d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15 euros et jusqu'à 25 euros d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalités sur intermarché.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Excusez-moi, monsieur.
Oui, ma grande.
C'est au sujet de vos t-shirts, il n'y a pas un moins cher ?
Ah non, désolé, ma grande.
Arrêtez de m'appeler ma grande. S'il y a un truc que j'aimerais voir grande, c'est vos promos.
Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici.
Conseil d'experts, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 26 mai, pour 3 t-shirts achetés, le t-shirt de marque est à 9,99€.
Sport 2000.
Ça match.
Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr.
Chez Securitest, chaque contrôle technique de votre voiture ou moto se transforme en une chance de gagner. Securitest fait son grand jeu des as de la sécurité avec Michel Vaillant. À la clé, une voiture, une moto et de nombreux lots à gagner chaque jour. Prenez rendez-vous dans votre centre ou sur securitest.fr. Jeu avec obligation d'achat jusqu'au 30 septembre, voire conditions sur place.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Céline, juste, je sais que vous avez parlé d'Oum Kulsoum, la diva du Moyen-Orient. Je voudrais dire quand même aux auditeurs de Sud Radio qu'Oum Kulsoum, c'était, imaginez Édith Piaf à la puissance 100 000. C'était extraordinaire. Moi, j'ai vécu ma jeunesse au Liban. Et je me rappelle que des gens arrêtaient leur travail. Elle avait une émission hebdomadaire sur Radio Le Caire. Et les gens arrêtaient, se mettaient en pyjama, sortaient leur narguilé pour écouter Oum Kulsoum.
Et oui, Oum Kulsoum, André Bercoff, la diva du Moyen-Orient, dont le nouveau maître de cette région sensible du monde, de la planète, est MBS. Et pour parler donc de ce nouvel homme fort saoudien, dont la figure controversée recèle une part de mystère, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Christian Chesneau et Georges Malbruno. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Alors, vous publiez un livre passionnant chez Michel Lafon, MBS, confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient.
Mohamed Ben Salman.
Exactement. Alors, depuis que son père, le roi Salman, est souffrant, il préside aux destinées de l'Arabie. Et c'est par un coup de force qu'il a été nommé nouveau prince héritier. Et ce, en juin 2017. Racontez-nous.
Alors oui, c'est en juin 2017 qu'il a été nommé prince héritier parce que il a convaincu fermement son père et sa mère, qu'il avait au passage d'ailleurs assigné à résidence dans son palais de la Mecque, il fallait écarter celui qui était le prince héritier, c'est-à-dire son oncle Mohamed bin Nayef, qui avait beaucoup travaillé avec la CIA, le FBI américain pour lutter contre Al-Qaïda, qui avait voulu s'en prendre à la maison Saoud. Mais MBS, fils préféré du roi Salman, voulait prendre le pouvoir et donc a monté une cabale. Mohamed bin Nayef a été convoqué à la Mecque et on l'a fortement incité, avec un revolver sur la tempe, de se dessaisir de son titre de prince héritier.
C'est
comme
ça.
On ne rigole pas. Et c'est comme ça que Mohamed bin Salman est devenu prince héritier.
Oui, parce qu'il faut comprendre que quand le roi Abdallah, donc l'ancien roi, meurt en 2015, donc c'est le roi Salman qui prend le pouvoir, et il nomme en numéro 2 donc ce MBN et en numéro 3 son fils. Ouais. En fait, il y a une espèce de jeu de dupe, parce que le numéro 2 est un numéro 1-2 un peu de façade, et que le vrai numéro 2 c'est MBS qui est en coulisses, qui affûte ses couteaux, et qui effectivement va régler son compte, donc en juin 2017, quasiment physiquement, et va forcer donc MBN à abdiquer pour lui laisser la place, et à partir de ce moment-là, bah, c'est un peu le début de, je veux dire, l'envolée au pouvoir de MBS.
Et oui, parce qu'en quelques mois, effectivement, au nom de la lutte contre la corruption, MBS a pris, a mis les princes de son royaume au pas. Pourquoi l'a-t-il fait exactement ? Et pour asseoir son pouvoir ?
Comment l'a-t-il fait ? Il l'a fait parce qu'il avait conscience que ces princes avaient beaucoup profité du système, s'en étaient mis plein les poches, en étant souvent partenaires des contrats avec des sociétés étrangères. Hein. Mais l'Arabie Saoudite, c'est quand même le premier pays exportateur mondial de pétrole, c'est 9 millions de barils par jour, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, MBS leur a tendu un piège, les a convoqués, supposément, très tôt le matin, au palais royal chez son père, et en fait, ils ont été embastillés pour la plupart au Ritz-Carlton de Riyad, où ils sont restés aussi longtemps qu'ils ont dû accepter de signer une reconnaissance de dette. Certains ont été mis en prison, et certains d'ailleurs ont quitté la prison qu'il n'y a pas longtemps, et certains ils sont même encore.
Alors il leur a dit, vous ne quittez pas le Ritz-Carlton tant que vous n'aurez pas payé.
Vous avez piqué X milliards de dollars dans la caisse, il avait fait ses comptes auparavant, probablement avec l'aide américaine, avec l'appui de son père, et aussi, il faut le dire, avec l'assentiment, enfin je veux dire tacite, des Saoudiens qui étaient très contents qu'il y ait une lutte contre la corruption qui soit engagée, parce que ça c'est important, parce que ça va lui donner une certaine assise populaire.
Il va même ramener 100 milliards, hein. C'est-à-dire le
ce 100 milliards.
100 milliards dans les caisses de l'État. Donc les gens,
il a dit, vous avez volé 100 milliards et on
Et on vous dit,
bah, vous avez
une fortune de 10 milliards, j'en veux 8. Et donc les gens doivent signer. Et sinon, bah, vous restez donc dans cette prison dorée. Mais il y a eu quand même une forme de torture. Hein. Les gens ils ont été secoués, notamment par une boîte américaine, Blackwaters, les consultants américains.
Les mercenaires.
Exactement. Et puis là, il y avait quand même 400 personnes. Hein.
Donc, il n'y avait pas que des princes. Il y avait des princes, des ministres, des ex-ministres, des hommes d'affaires.
Il a plumé tout le monde.
Voilà, c'est ça. Et donc forcément, il les a tétanisés, parce qu'après, à partir de là, bah, les gens ont
peur. C'était la première fois dans l'histoire de l'Arabie Saoudite.
Ah oui, c'est de la première fois. Parce qu'avant, il y avait un partage justement du pouvoir entre les grandes familles, la famille régnante. Et là, il a tapé un grand coup de pied dans la fourmilière. Et on connaît par exemple le prince Walid bin Talal, qui est le propriétaire du George V à Paris. Ouais. Et lui, eh bien, il a dû payer, je crois, 6 milliards.
Et
il a été fortement secoué, hein, pour ne pas dire plus. Et aujourd'hui, ces gens-là, aussi bien Mohamed bin Nayef, l'ancien prince héritier, que Walid bin Talal, sont dans leur prison dorée, dans leur palais, avec pour la plupart un bracelet électronique, et ils ne peuvent pas quitter le territoire.
Incroyable. Ouais, en tout cas, la plupart des détenus, effectivement, ont été relâchés. Après avoir plaidé coupable et accepté un arrangement impliquant la restitution de biens financiers, immobiliers ou de titres boursiers, supposément acquis, écrivez-vous. Certains ont été blanchés, effectivement, mais d'autres croupissent toujours en prison.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire c'est que incroyable. Là, c'est un coup de pied dans le sérail. Encore une fois, c'était un peu les Alibaba les 40 voleurs, c'est-à-dire que chaque prince avait j'allais dire des contrats, des commissions, et puis et c'est vrai que les Saoudiens en avaient marre, c'est-à-dire que le Saoudien de base voir s'enrichir tous ces gens et avec leurs passe droits, parce qu'il faut pas oublier, ils avaient des passe droits, surtout notamment le terminal à l'aéroport où ils avaient leur jet, où ils faisaient leurs affaires, c'est eux qui ramenaient l'alcool par exemple, le trafic d'alcool, c'était les princes, ils avaient des voitures spéciales, ils payaient pas l'eau, l'électricité, enfin tout était gratuit, et les Saoudiens où ils voyaient effectivement le pays allait de moins en moins, il y avait de moins en moins d'argent, ils voyaient ces princes qui s'enrichissaient et qui étaient, j'allais dire, obèses. Hein. Et là, ils n'étaient pas mécontents de voir que MBS donne un coup de pied dans la fourmilière.
Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, fait que MBS fasse ça? Parce qu'il aurait pu aussi dire, allez, on va les laisser faire.
Il y a des raisons politiques. C'est-à-dire, en même temps, il coupe les branches. C'est-à-dire qu'il coupe la branche Abdallah, l'ancien roi, parce que dans la famille royale, le pouvoir est dans la famille royale. Et pour avoir des gens fidèles et loyaux, il faut écarter ceux qui pourraient revenir ou menacer le pouvoir. Et comme par hasard, c'est tout l'ancien régime qui est décapité.
Et il fait un exemple. Il instaure une espèce de terreur qu'on va retrouver quelques temps plus tard avec l'affaire Khashoggi, dont on va probablement parler.
Effectivement, l'affaire Khashoggi, c'est un an après les purges, effectivement, du Carlton. Eh bien, on peut dire que sa réputation d'homme brutal prêt à tout, donc pour éliminer ses rivaux, prend une autre dimension avec ce meurtre qui a eu lieu donc le 2 octobre 2018. On peut dire que le mode opératoire a été terrible.
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire Khashoggi?
Jamal Khashoggi, qui était un dissident qui avait pignon sur rue aux États-Unis, est convoqué au consulat saoudien d'Istanbul pour faire renouveler son passeport. Et là, on lui tend un guet-apens et il est torturé et il est assassiné. Mais simplement, les Saoudiens démembrés, découpés à la scie à os. Et les Saoudiens n'avaient pas réalisé que les services de renseignement turcs avaient filmé, installé des micros, etc. Donc l'affaire était vantée. Mais, abject. MBS est un paria à l'époque de la communauté internationale. Il est sauvé par deux personnes, son père, qui va constamment le soutenir, et Donald Trump, etc. Mais aujourd'hui, des années plus tard, MBS est sorti vainqueur de cette épreuve, hein, et donc ça lui donne un surcroît de puissance gigantesque, puisqu'on en a besoin pour l'énergie, on en a besoin y compris pour l'Israël-Palestine.
Il est sorti vainqueur, effectivement, mais il y a quand même eu des preuves, effectivement, crédibles, qui impliquaient.
Agnès Canamar de l'ONU fait son rapport qui est absolument convaincant, la CIA, les services turcs, Biden, le candidat Biden, dit Monsieur MBS, vous êtes un paria, et donc en gros on va vous faire rendre gorge. En tout cas, tout le monde est contre lui, et effectivement il va survivre à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il a aussi un sentiment d'impunité.
Mais ça l'excuserait évidemment de l'atrocité de l'histoire. Est-ce que Khashoggi, ce qu'on a dit aussi, et c'était un agent de la CIA ou pas du tout?
Non, je pense pas. Khashoggi avait peut-être une liaison avec des amitiés avec les frères musulmans. Jamal Khashoggi, moi que je connaissais, que j'avais rencontré au Qatar, il faut quand même se souvenir, c'était quelqu'un de l'Inde, issu d'une grande famille saoudienne, marchand d'armes, la famille Khashoggi.
Khashoggi, oui, c'est à côté.
Exactement. Ouais. Et donc, qui avait travaillé pendant des années, avec les services de renseignement saoudiens. Jamal Khashoggi a été le dernier officiel saoudien à aller rencontrer Oussama Ben Laden en 1996, lorsqu'Oussama Ben Laden était réfugié au Soudan. Et lorsqu'il est mort, Oussama Ben Laden, en 2011, lorsqu'il a été attrapé par les Américains, Jamal Khashoggi a pleuré, par exemple. Donc, voilà. Mais c'était quelqu'un qui était devenu, aux États-Unis, une figure dérangeante. Et comme il écrivait dans le Washington Post, il avait une envergure, une aura. MBS, je ne veux voir dépasser dans le rang aucune personne. Entouré par, il faut le dire, effectivement, des gens peu recommandables, qui ont voulu, probablement, lui faire plaisir. MBS a probablement dit, je ne veux plus entendre parler de cette personne. Et là, il y a eu une interprétation et on l'a découpé à la science. Ça a été catastrophique.
Mais les cerveaux de l'opération Khashoggi n'ont jamais été inquiétés par la justice. Ça, c'est incroyable.
Il y a eu quelques condamnations. Ça a été
découvert par MBS.
Voilà. Et puis, après, il y a une justice saoudienne qui parfois tranche les têtes. Mais là, dans le cas présent, ils ont eu des peines de prison commuées après, en détention à la maison, etc. Et puis finalement, tout ça s'est évanoui.
Ça dit quelque chose aussi du caractère, si on parle de sa jeunesse. jeunesse. Il est resté souvent un peu entouré par ses anciens copains quand il était jeune, qui n'étaient pas toujours très fréquentables.
Oui. On parlait de Mohamed Ben Salman.
Voilà.
Ouais. Oui, le Sao de Cartagena qui est un peu sur
parlons du réformateur. Quand
et
même,
oui, parce qu'effectivement, il dirige.
Une des choses que vous racontez dans votre livre, qui sont même assez hallucinantes. Quand on connaît l'Arabie Saoudite et qu'on sait d'où ça vient, c'est très
étonnant. C'est presque un autre pays. C'est-à-dire que c'était de l'Arabie en noir et blanc, maintenant on est en couleur. Quoi. Et c'est vrai que quand je disais, vous avez des concerts de David Guetta avec 100 000 personnes, vous avez des cinémas, vous avez des restaurants, vous avez du sport, maintenant les femmes peuvent conduire. Effectivement, entre l'Arabie de 2015 et celle d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir.
Et oui, parce que lui, il prône un islam effectivement modéré, il veut vraiment en finir avec le rigorisme wahhabisme, ça.
Oui, il a commencé. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite était aussi caractérisée par un archaïsme. C'était la police religieuse. C'est-à-dire, vous arriviez et si votre abaya n'était pas suffisamment longue, eh bien, vous avez un policier qui vous tapait avec un coup de bâton. Donc, il les a pas démantelés.
Il les a neutralisés.
Il les met à la maison. Il reste chez eux. Il n'existe plus. Et donc, voilà, il veut faire revenir l'Arabie Saoudite à ce qu'elle était avant 79, qui était une date charnière, c'est-à-dire un pays conservateur, mais qui ne soit pas un pays extrémiste avec un islam conservateur. Et lui-même, d'ailleurs, n'est pas wahhabite dans la pratique, etc., mais il est plutôt conservateur. On raconte qu'un de ses amis français nous a dit que dans les années 2010-2011, il était à Paris et sa femme avait besoin d'un médecin, d'une consultation médicale, et il a refusé, Mohamed Bin Salman, que sa femme soit auscultée par un homme, parce qu'il voulait une femme, parce que c'est la tradition saoudienne.
Et l'autre chose, c'est qu'il veut changer l'image de l'Arabie, c'est-à-dire que l'image, c'était la religion, etc. Et il veut créer finalement un État-nation et dire que l'Arabie, ça commence pas simplement avec l'islam. Il y a une civilisation.
Ce n'est pas un État islamique, c'est un État-nation. Ce que vous racontez, très bien. Mais juste un mot, quand vous dites 79, est-ce que c'est lié, parce que c'est important de parler de ça, parce que c'est lié à ce qui s'est passé en Iran?
Exactement. L'Iran, le Shah est chassé, la République islamique prend le pouvoir, Khomeini veut exporter la révolution. Et il y a un autre événement qui se passe en Arabie Saoudite, c'est l'attentat à la Mecque. Donc la famille Saoud, elle est déstabilisée par ces deux événements.
Les musulmans radicaux, les ultra-radicaux prennent la Mecque.
Prennent la Mecque. Et donc la famille Saoud est déstabilisée. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle tourne la vis et du rigorisme. Et donc l'Arabie s'engage dans une politique rigoriste d'appui, d'ailleurs à l'étranger, à un certain nombre de mouvements islamistes. Et donc c'est ce que Ben Salman a dit en 2017 lors d'un forum international. Il a dit une phrase très juste, il a dit: on va quand même pas passer les 25 prochaines années à nous demander si la musique est halal ou pas halal, etc. Il faut effectivement normaliser l'Arabie Saoudite dans ce qu'est l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire toujours le pays des deux lieux mosquées les plus sacrés. Les femmes aujourd'hui, moi ce qui m'a frappé quand j'y suis allé la dernière fois, c'est qu'effectivement vous voyez des jeunes femmes maquillées
dans la rue,
qui fument, qui conduisent, qui travaillent, etc. Qui, si elles sont pas contentes de leur mari, le soir, elles leur font un bras d'honneur et elles vont à l'hôtel pour dormir, alors qu'avant, elles ne pouvaient pas le faire, puisqu'elles devaient être sous la tutelle de leur mari. Mais
la polygamie reste quand même... Toujours autorisé. La situation des droits de l'homme, quand même, pose question
c'est le point noir. C'est que, si vous voulez, MBS ne veut pas la moindre opposition, début de commencement d'opposition. Et c'est là où il est très contesté, contestable, c'est que en parallèle à cette modernisation, eh bien, il y a eu des décisions qui sont absolument inacceptables. Une blogueuse qui est condamnée à 30 ans de prison parce qu'elle a tweeté une remarque tout à fait insignifiante. Mais je pense qu'il veut faire des exemples. Enfin, en tout cas, c'est l'interprétation que ceux qui le connaissent en font. Il veut faire des exemples pour dire, voilà, il faut montrer qui est le maître, et à partir de là, eh bien, ceux qui se déviraient un tant soit peu seraient lourdement punis.
Et oui, mais ça, on peut dire que c'est quand même un peu un retour en arrière sous le roi Abdallah, effectivement, dans les salons, vous le racontez, les salons de thé, on pouvait critiquer le pouvoir, parce que c'était
un régime un peu mou, c'est-à-dire qu'il y avait des espaces de liberté avec MBS.
Un régime de Majlis.
C'est les salons, les diwans, où les gens pouvaient parler. Faut rappeler quand même, l'Arabie, c'est un grand pays. C'est 4 fois la France, c'est 36 millions d'habitants, un tiers d'étrangers. Donc c'est pas un petit pays comme le Qatar qui 300 000 qui serait une rue de Riyad. Donc là il y avait une certaine fluidité. Sous MBS on est sur un régime policier. Effectivement un tweet peut vous valoir une peine de prison. Et donc il y a une chape de plomb et il y a aussi peut-être un zèle des gens qui sont en dessous. C'est-à-dire, pour plaire au prince, on en rajoute dans la justice, dans ça. Donc voilà, il y a tout ça, et c'est vrai qu'on le sent à Riyad. Les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que...
Il y a une paranoïa. On a un chapitre dans notre livre, c'est l'obsession sécuritaire.
Oui, on en parlera dans un instant, effectivement.
Après Khashoggi, si vous voulez, tout le monde a compris. Donc il y a une paranoïa. C'est là, d'ailleurs, où par rapport à son plan de modernisation qui est intéressant, il lui manque un aspect, c'est l'aspect libéralisation politique. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a zéro libéralisation politique.
Il n'y a pas les journaux, tout ça.
Non, il n'y a rien du tout. Il convoque la presse à 3h du matin, etc. Donc, la question qu'on se pose, effectivement, c'est est-ce qu'à un moment donné, il ne faudra pas justement que pour son plan réussisse et que les jeunes continuent d'adhérer, non seulement il faut leur donner des jeux et du pain, mais il faut aussi leur donner quand même un minimum de liberté. Mais il faut se mettre à sa place. Ce monsieur a 38 ans. Il va être roi dans un an, dans 6 mois, à 40 ans. S'il n'est pas assassiné par un de ses cousins, en raison de ce qu'il leur a fait il y a quelques
ennemis,
années, il va être roi pendant 30 ans, 35 ans. Donc ça lui laisse une marge de manœuvre qui est considérable. Et il faut espérer qu'effectivement, à un moment donné, il offre cette libéralisation qui n'existe pas.
À chaque jour suffit sa peine.
Dans une forme de consolidation autoritaire. C'est-à-dire qu'il a neutralisé tous ses ennemis, les religieux, les princes, les grandes familles marchandes. Il s'appuie sur les jeunes et les femmes. 70% de la population a moins de 30 ans en Arabie Saoudite. C'est ça, le pari MBS, c'est le pari des jeunes. Mais il fait peur. On parle par exemple le business, les grandes familles saoudiennes sont toujours à l'étranger, ne veulent pas revenir parce qu'ils se disent on va nous confisquer l'argent. Les grandes sociétés internationales hésite à mettre de l'argent parce que c'est quand même un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un peu centré. Donc on est dans une phase un peu intermédiaire.
Oui. Et puis c'est pas le capitaliste de connivence, quoi.
C'est un capitaliste un peu musclé.
Mais ça peut le pas être.
C'est un peu le Far West. On a un chapitre sur le Far West de MBS, c'est ça, c'est un Far West.
Et oui, on va en parler dans un instant sur Sud Radio, mais que sait-on réellement de MBS, de sa jeunesse, de sa famille, de sa vie dans ses palais? Comment travaille-t-il? Quels sont ses hommes de confiance? On vous dit tout dans un instant, restez avec nous.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de grosses crevettes est à seulement 7,49€.
À ce prix-là, je vais en faire tout un plat.
De quoi vous faire de belles assiettes. D'ailleurs, vous m'en garderez une, hein?
Bien sûr que oui.
Auchan, avec plaisir. 7,49€, le kilo de crevettes entières cuites réfrigérées. Penaus Vanamei, 25 à 35 pièces au kilo. Élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
1664 Blanc présente.
À la French. À la French, c'est quoi?
C'est quoi? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, à la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Il était une fois un homme à l'appétit d'ogre en quête de son prochain encas. Souhaitant déguster un bon fruit, il déposa dans son caddie les bananes à 99 centimes le kilo chez Aldi. Et il salivait déjà à l'idée de toutes les dévorer. Oui, laisse-en pour les autres, CEO. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, vendu en vrac, variété Cavendish, offre valable jusqu'au samedi 11 mai, info sur aldi.fr.
Là, vous entendez? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité, le roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15€ de remise immédiate tous les 150€ d'achat, là vous vous dites, ok, y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
S'il vous plaît, je vais faire un discours. Avant de fêter Hugo, un mot sur moi. Sinon vous allez passer la soirée à me le demander, donc oui, mes chaussures viennent de chez Sarenza.com, évidemment. Mais aussi ma robe, ma veste, mon sac. Oui, je sais, c'est très beau, merci beaucoup. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, tous les looks et les meilleures offres sont sur
Sarenza.com.
Merci l'orchestre. Et sur ce, joyeux anniversaire Hugo.
Uniquement chez Poltron et Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Chante Skenderia, chante l'Hawa.
احنا اسكندريه رمانا الهوى يا دنيا هنيه او ليالي
رضا. Oui, Férouz, la diva du monde arabe, André Berkoff, qui a bercé
toute... Diva libanaise.
Et oui, qui a bercé toute votre enfance à Beyrouth. Et bien maintenant, c'est de l'enfance de MBS dont nous allons parler sur Sud Radio avec Christian Chesneau et Georges Malbruno. Alors, sa prime jeunesse, vous le racontez dans votre livre qui est passionnant, qui vient de sortir chez Michel Lafon. C'est un vrai mystère. Et pour percer, bien, cette énigme, vous êtes allé à la rencontre de ceux qui l'ont connu enfant au temps de ses escapades, donc sur la Riviera française, ou à Paris. C'était vraiment un enfant capricieux.
Alors oui, c'était un enfant capricieux qui faisait déjà des caprices. Bah, il faut savoir que entre 1999 et 2004, MBS passait tous les étés un mois entre le Plaza Athénée et le Majestic à Cannes avec sa mère et ses frères et sœurs. Et donc, on est retourné un petit peu voir les gens qu'il avait connus à cette époque. Hein. Donc c'était un adolescent qui était un peu pato. Hein. C'était pas quelqu'un qui allait faire les musées, tout ça. Donc sa mère lui louait une Ferrari, il allait remonter les Champs-Élysées. C'était pas quelqu'un non plus qui allait, contrairement à ses cousins et d'autres, dans des boîtes échangistes, dans des boîtes de nuit. Non, c'était quelqu'un lui qui était plutôt un type qui aimait le tambour, qui aimait la malbouffe, etc. Et effectivement, qui était capricieux. On raconte, il arrive au Majestic à Cannes au cours d'un été 2001 ou 2002, et effectivement, donc il faut savoir que sa mère et sa suite, ils réservent 180 chambres, hein, deux étages, donc évidemment...
180 chambres,
qu'ils privatisent. Les employés de ces grands hôtels n'ont pas accès aux chambres, simplement fournissent les serviettes et les draps, c'est tout. La famille royale a son propre staff de nounous, etc. Ouais. Et donc, la famille royale arrive... MBS étant le fils aîné, prend la suite impériale, et immense, etc. Et dans cette suite, eh bien, il y a déjà un méga écran de télévision. Mmh. Mais le jeune prince, Mohamed bin Salman, trouve que l'écran est trop petit. Donc, il fait ce que nous a dit une crise, un caca nerveux. Son travel manager va voir un des responsables du Majestic et lui dit il faut trouver un écran encore plus grand parce que Mohamed fait une crise et demain on part. Donc évidemment, panique au Majestic parce que 180 chambres, c'est la recette de l'année. Et donc, il y a un concierge qui a une idée, il dit on va aller à Nice, il y a un hyper grand magasin, on va probablement en trouver un. On met MBS et deux, trois personnes du Majestic dans une fourgonnette et les voilà partis dans ce magasin. Et effectivement, ils trouvent un écran hyper géant, mais dernier problème, et MBS, oui, je veux bien, lui dit, ça te convient ? Oui, ça me convient, simplement, à la fin, la caissière dit, vous le récupérerez dans une semaine. Et la personne du Majestic dit, non, c'est maintenant, non, c'est pas possible. Donc, ce qui se passe, que c'est comme on le fait, bon, il y a eu une obole, pas bédouine cette fois-ci, mais, je veux dire, hôtelière qui est tombée du ciel, on a installé l'écran géant dans la suite impériale de MBS, et MBS a pu commencer ses vacances, il était content. L'épisode était terminé.
Et, oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'enfant, même adolescent, personne ne lui prédestinait un tel succès. Ah non, parce que
c'est un gros nounours, un petit peu. Oui. Parce qu'il faut dire qu'il est très grand. Hein. C'est quelqu'un qui fait peut-être 1m90, hein, comme son grand-père, le grand roi Ibn Saoud. Donc c'est un colosse, hein, un peu nounours, et qui aime bien les jeux vidéo aussi, qui adore ça, les hamburgers, etc. Mais c'est pas un intellectuel dans le sens, il n'a pas fait des grandes études. Il n'est pas sorti de Riyad.
Il est sorti à l'étranger pour étudier. Il était dans l'ombre de son père. C'est ça la recette de son pouvoir.
Il connaissait pas l'anglais.
Pas d'étranger.
Non. C'était la canne de papa.
Son frère, son petit frère, qui est maintenant ministre de la Défense, a été aux États-Unis. Non, il est resté vraiment à Riyad. Il est dans le terroir saoudien. Donc, il parle pas l'anglais, il parle pas les langues. Il lit pas beaucoup. Il aime les jeux vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un un petit peu, un gros nounours, et qui effectivement fait quelques caprices, y compris sur la plage, quand il emmerde les autres personnes qui sont sur la plage avec son ballon, on est obligé de le reprendre un petit peu à l'ordre, voilà. Mais c'est pas quelqu'un, comme on disait tout à l'heure, qui a fait la fête dans les boîtes de nuit, et fait les choses un peu excentriques.
Un vrai Saoudien du désert.
Et oui. Est-ce que c'est justement pour ça, comme vous le disiez tout à l'heure, peut-être. Un bédouin? Est-ce que c'est la raison pour laquelle son père l'a choisi lui et pas ses autres fils?
Très vraisemblablement, parce qu'il y a cette phrase du roi Ibn Saoud, hein, qui a dit. pour diriger des Bédouins, il faut un Bédouin. Et non pas un Saoudien qui a étudié aux États-Unis, à Harvard ou ailleurs, etc. Il faut un Bédouin pour les comprendre et les tenir. Et effectivement, on voit bien que Mohammed bin Salman est dans cette filiation-là. D'ailleurs, quand vous allez en Arabie Saoudite...
il a perpétué les traditions.
Complètement. Et c'est son modèle. Quand vous êtes sur les routes et dans les rues de Riyad ou de Jeddah, vous avez des grands portraits. Vous avez Mohammed bin Salman, son père Salman, et le troisième, Ibn Saoud, le fondateur, qui est la référence de Mohammed bin Salman.
Eh oui.
Très gros culte de la personnalité en Arabie Saoudite, avec lui ou pas ?
Pas plus que ça.
C'est presque invisible. C'est pas Saddam Hussein. Saddam Hussein, il y avait des portraits partout,
des portraits,
etc.
C'est pas Mao Tse-tung,
Mais il est omniscient, il est omniprésent. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vraiment le chef. D'ailleurs, un chef invisible, hein, parce qu'il sort pas beaucoup dans la rue, à la différence de l'émir du Qatar ou de Dubaï qui peut faire ses courses, aller dans un restaurant.
Il va rarement à la rencontre.
Lui, il a des conseillers en sécurité, il est paranoïaque, il a des ennemis, et lui, pour l'approcher, il fait pas des bains de foule. Il a tout un. On le raconte dans le bouquin sur l'obsession sécuritaire.
Il y a une obsession sécuritaire de sa part, qui est compréhensible, parce que comme il a mis en prison les trois quarts de la famille, et qui sait que son ancêtre, le roi Faisal, a été assassiné par un de ses cousins, donc il se méfie. Par exemple, on raconte, quand il est venu déjeuner à l'Élysée en 2022, je crois, eh bien, il a imposé qu'il y ait un Saoudien dans les cuisines de l'Élysée pour vérifier que qu'il n'y ait pas de problème alimentaire d'empoisonnement. C'est quelqu'un, on nous a raconté aussi, puisqu'on a réussi à avoir une source qui travaille dans un de ses palais, lorsque il arrive dans un de ses palais ou dans une de ses résidences, les démineurs débarquent, tout le monde doit sortir démineurs rentrent et ensuite MBS et les autres peuvent rentrer.
Vous racontez que le personnel effectivement reçoit une sorte de message, le prince arrive et tout le monde doit partir, c'est incroyable.
Alors est-ce qu'il avait comme le roi de France des goûteurs?
Alors il a un goûteur évidemment.
Donc prend n'importe quel
bien sûr. Il a un goûteur, mais alors ce qu'on a découvert c'est que alors il a sophistiqué je dirais ses goûts alimentaire, puisque quand il avait 15 ans, il aimait surtout la malbouffe, les hamburgers, etc. Hein. Ensuite, il a découvert les huîtres Gillardot et le bœuf Wagyu, qui sont un petit peu ses plats favoris.
Dubaï par avion.
Et oui, effectivement, et vous racontez que pour des raisons de sécurité, ces mets ne sont pas autorisés à entrer donc en Arabie Saoudite, mais pour satisfaire le prince, son majordome a trouvé la solution. Racontez-nous.
Oui, alors voilà, son majordome, on en reparlera, Louis, qui est un Brésilien qui gagne quand même 320 000 euros par mois, jour...
320 000 euros par mois, le majordome.
Par mois,
mais qu'est-ce qu'on fout là?
Qu'est-ce qu'on fait là?
Et donc, un jour, Louis, son majordome, avant qu'on peut, faire venir des huîtres Gillardot et du bœuf Wagyu, qui sont les mets favoris de Mohammed bin Salman, qu'il a découvert en Europe, et donc...
Ouais, il a découvert en Europe.
Voilà, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc, il a aimé, et donc, pour faire plaisir au prince, une personne dit à Louis, le majordome de MBS, si vous voulez, on affrète un Falcon qui ira deux fois par mois de Jeddah à Dubaï chercher des huîtres Gillardot.
À Dubaï, c'est en vente libre.
Oui, et du bœuf Wagyu. Et donc, effectivement, eh bien, on y va, on teste ça, et tous les 15 jours, depuis des années, eh bien, il y a un Falcon qui va chercher des huîtres Gillardot et du bœuf Wagyu pour MBS et pour son bon plaisir.
Et oui, il a un train de vie, ce MBS, incroyable. Il vit notamment, il a justement à disposition 17 palais avec son père, et il possède surtout l'un des plus beaux yachts du monde, ce depuis 2015, et vous racontez... 133 mètres de long, 7 ponts, 4500 mètres carrés d'espace intérieur, murs d'escalade, piscine sous-marin, salle de cinéma, centre de bien-être, piste de danse, deux blocs opératoires et des chirurgiens en permanence, incroyable.
C'est un palais flottant.
Et qui lui permet d'être en sécurité davantage probablement que dans un de ses palais, parce que comme vous le savez, depuis 2015, donc Mohammed bin Salman a engagé une guerre contre les rebelles aussi au Yémen sud. De temps à autre, les rebelles tirent des missiles sur Riyad ou sur. Et donc là, il se sent davantage en sécurité. Et puis aussi, il peut recevoir sur son yacht au large de Jeddah, sur la mer Rouge, tous les invités qui ne veulent pas être vus. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, qui était son grand copain, qu'il appelle encore très régulièrement, probablement des Israéliens et d'autres. Sur son yacht, il a une structure qui est à lui.
Des gens que personne ne peut voir.
Et vous dites effectivement qu'il reçoit les émissaires de Benjamin Netanyahou, c'est ça ?
Exactement. Ouais.
Exactement, oui, parce qu'il a envie de, il a envie de normaliser ses relations avec, avec Israël. On en avait envie avant le, l'attaque du 7 octobre. Il en a moins envie maintenant, mais ça, ça se fera probablement après.
Oui, ça, ça risque d'être difficile parce qu'effectivement, de nombreux Saoudiens, effectivement, sont quand même méfiants à l'égard
des. Cédric, vous avez parlé de ça. Et c'est un bourreau de travail, vraiment. Oui. C'est un vrai bourreau de travail.
Il dort pas la nuit quasiment. Hein. C'est, il est un peu comme Emmanuel Macron, notre président, qui dort 3-4 heures. Lui, c'est pareil. Et surtout, il a un peu une double vie. C'est-à-dire dans...
Non, mais pour travailler, lui. Pour aller faire la fête.
D'ailleurs, il reçoit, on raconte, il y a plein d'exemples dans le bouquin, il reçoit les gens à 3, 4 heures, 5 heures du matin. C'est-à-dire qu'on vous donne rendez-vous à 18 heures le soir, vous arrivez, et puis on vous reçoit, si on vous reçoit, à 4 heures ou à 5 heures du matin.
Il aime se faire désirer, c'est ça.
Et voilà. Et puis il vous reçoit 10 minutes, un quart d'heure, et puis il repart.
Vous racontez dans votre livre des trucs formidables. Des mecs comme Richard Attias, qui arrive la veille, qui attend toute la nuit.
On raconte aussi que dans le bouquin, certains ministres dorment au palais, parce qu'ils ne rentrent pas chez eux, comme ça ils sont tout de suite, si MBS a besoin d'un rapport, d'une information, hop, ils
les assurent. C'est-à-dire que si à 4h du matin, il a envie de les voir, il faut qu'ils soient là.
Il doit être là, voilà. C'est un peu la cour de Louis XIV, mais façon 21e siècle, Ariad, façon orientale, et donc, les gens, il a un agenda de dingue, et effectivement, donc les affaires du royaume le jour, et puis la nuit, il a ses grands projets, parce que c'est aussi quelqu'un, c'est un bâtisseur, c'est un futur roi bâtisseur. Il a tous ses projets de Neom, de Line, cette ville un peu futuriste. Donc il est dans aussi ça. Il veut montrer qu'il va mettre l'empreinte de sa patte en Arabie Saoudite.
Et oui. Et vous racontez qu'avec ses interlocuteurs, il peut être quand même parfois violent, dur.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, en 2015, on a rencontré notamment un grand patron du CAC 40 français qu'il a rencontré à plusieurs reprises en 2015 et qui a des intérêts là-bas, donc il a pas forcément intérêt à en dire du mal. Il vous a dit, je l'ai trouvé au début effrayant. Il était effrayant parce que il était capable, ce qu'il a fait, quoi, Khashoggi, déclarer la guerre au Yémen, envahir le Qatar, etc. Donc, et les consultants que nous avons rencontrés, qui l'ont rencontré, ils sont tétanisés lorsqu'ils vont le voir pour la première fois, parce qu'ils savent qu'il y a ce côté effrayant d'MBS, et donc il peut tout à fait, au bout de 5 minutes, les renvoyer, etc. Donc, les personnes qu'on a vues nous ont dit on est tétanisés, on a appris par cœur le narratif qu'on va lui présenter et on essaie de regarder s'il est concentré ou pas effectivement et il est capable
de détruire quelqu'un.
Oui, c'est quelqu'un qui...
et puis il en joue aussi c'est que maintenant ça fait quand même quelques années qu'il est quasiment
ça fait partie du personnage
c'est un colosse c'est quelqu'un aussi même s'il a pas fait des grandes études, il est très agile intellectuellement, il est très vif, il sait ce qu'il veut, Il a une grande mémoire. Les gens nous ont dit, il se souvient de quelque chose, il y a 3-4 ans, je vous ai dit ça il y a 3-4 ans, mais pourquoi vous l'avez pas fait? Donc il suit tout et tous ses projets, c'est un peu un bourreau de travail avec une grande mémoire. Effectivement, il peut déstabiliser les interlocuteurs parce que effectivement, lui ce qui compte c'est l'Arabie, c'est ses projets et si c'est pas fait en temps et en heure, c'est quelqu'un qui veut comprimer le temps. C'est-à-dire qu'il veut être le maître des horloges, ça va jamais assez vite et donc il veut que ça avance, il veut que ça avance.
Et il parle très bien l'anglais. Maintenant, alors qu'en 2015, il baragouinait trois mots d'anglais, il a pris des cours, il parle bien l'anglais, et effectivement, il a ce... Je pense que maintenant, il joue de ce côté effrayant pour instaurer un rapport de force et pour dire je suis le maître et vous devez avoir peur de moi.
Et juste quelque chose par rapport, parce que ça c'était vrai avant même, par rapport à son rapport à la modernité, parce qu'on sait toujours, mais ce n'est pas, vous rappelez, le temps où on disait le pétrole c'est fini, rappelez-vous en 2000-2005 c'est fini, c'est pas vrai du tout, on sait très bien que c'est pas ça, mais est-ce que son rapport à la modernité, est-ce qu'il se dit, ou est-ce que ce qu'on vous a répété, ou vous avez appris, est-ce qu'il dit, bon le pétrole ok, ça va durer encore très bien, mais déjà je dois être dans la technologie, je dois être dans la modernité, dans le numérique, etc.
Lui, il est dans l'ultra-modernité, alors à la fois dans le domaine des arts, parce qu'il est passionné d'art numérique, lui les tableaux ça l'intéresse pas, il veut l'art numérique.
Raté l'époque industrielle, on va pas rater l'époque...
Exactement,
places d'avance. Et puis, c'est vrai que sur le pétrole, il a lancé ses grands projets d'énergie verte, les grands champs d'éolien, de soleil, etc., ses puissances 1000 par rapport à la France. Donc, donc le pétrole aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert à faire de l'argent, avoir beaucoup
ça
de...
Ça sert à financer tout ce qui doit...
À financer tout ça, exactement. Et donc, ils sont en train de monter notamment sur l'hydrogène vert, et ils veulent être les numéro un mondiaux de l'hydrogène vert d'ici une petite dizaine d'années. Donc, il a cette vision aussi d'une Arabie Saoudite, un peu plateforme mondiale, qui est au centre de la mondialisation énergétique, logistique, économique.
La limite de ces grands projets, qui sont parfois mégalomaniaques, c'est est-ce qu'il aura la ressource humaine pour les accompagner ? Voilà, là,
Et le financement. Parce qu'on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Excusez-moi, on va faire une petite pause. On va continuer de parler effectivement de MBS, l'un des hommes les plus puissants du monde. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. N'est-ce pas, Didier ?
Plutôt deux fois qu'une.
Eh bien justement, aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les deux magrets de canard origine France sont à 14,90€ le kilo.
À seulement 14,90€ le kilo ? Ni une ni deux, j'en prends quatre.
Et qu'allez-vous faire avec tous ces magrets ?
Vous inviter à dîner.
Oh, ça c'est sympa, Didier.
Netto, on gagne tous à payer moins cher. Magret de canard cru, barquette de 800 grammes environ, les canards dosant volaille française. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio.
J'ai fait des idées de génie.
Chérie, toi, t'es encore allé chez Jiffy ?
Bah oui, je pouvais pas manquer leur super promotion jardinage. Les 3 sacs de terreau 50 litres à seulement 10 euros. À bon prix, on va rempoter.
10 euros les 3 sacs de terreau 50 litres ?
Ah oui, ils ont un large choix de cache pot 10 litres à seulement 1,99€.
Waouh !
En ce moment, chez Jiffy, les cache pot 10 litres sont à seulement 1,99€. Et les 3 sacs de terreau universel 50 litres sont à seulement 10 euros.
Au bon prix, Jiffy, on plante tout.
Offre sur le terreau, valable jusqu'au 15 mai.
J'ai fait des idées de génie.
Ouvert même le dimanche.
1664 Blanc présente
À la French. À la French, c'est quoi ?
C'est quoi ? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse. Ensoleillée. 1664 Blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 Blanc.
C'est ça, À la French. 1664 Blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
La recette de veau pour la Pentecôte, c'est très simple. On prend une belle côte de veau savoureuse, choisie par son boucher. On ajoute un week-end prolongé. On fait revenir toute la famille. On les fait mijoter dans l'herbe du jardin le temps de la cuisson. Et une fois qu'ils ont doré au soleil, on peut servir la côte de veau à table, accompagnée d'une bonne tranche de rigolade. Vous allez vous régaler pour la Pentecôte. Ah, et ça marche aussi avec du tendron, du pavé et tous les délicieux morceaux de veau à retrouver sur bravoleveau.com.
À tous les enfants qui aiment les noms de poissons marrants, à ceux qui rigolent quand on leur dit qu'ils vont manger de la barbue, du sabre, du turbo ou du loup, eh bien ce soir, c'est lieu noir. Alors, ça rigole moins là, hein ? Jusqu'à samedi, Intermarché propose le filet de lieu noir à seulement 6,99€ le kilo. Les enfants, à table ! Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Bercoff, Céline Alonso.
Et ça va.
Le Moyen-Orient continue notre plongée effectivement avec Christian Chesneau et Malbruno qui ont mené une enquête fascinante sur MBS. Alors sous sa houlette, l'Arabie s'est lancée dans une révision d'ensemble de ses partenariats. Sa relation avec les États-Unis donc reste stratégique, mais la Chine, la Russie et l'Inde sont des partenaires importants pour lui. Qu'en est-il de la France et de l'Europe aujourd'hui ?
La France et l'Europe sont des partenaires, je dirais, marginaux, hein, parce que MBS est quelqu'un qui est très pragmatique, donc il considère, même s'il est en bisbille avec l'administration Biden, il a de très bonnes relations avec l'establishment économique, à la fois à Wall Street, la Silicon Valley, bonnes relations avec les Républicains et la famille Trump. Et surtout, il voit que son premier client pétrolier, c'est la Chine. Donc, il multiplie les partenariats avec la Chine. Bonne relation avec la Russie, parce que la Russie est un partenaire aussi énergétique important. Et nous, la France, on est un petit peu, excusez-moi l'expression, en anglais, le summer resort, c'est un peu le village vacances. Il a acheté un magnifique château à Louveciennes. Ouais. Mais on est plus ce qu'on était avant, c'est-à-dire un partenaire de compensation. Alors, effectivement, on compte un petit peu. Il nous a attribué le développement culturel d'Alula, mais la relation avec Emmanuel Macron n'est pas très très bonne, il n'y a pas d'alchimie entre eux. Donc voilà, on est un petit peu sorti des écrans radars parce que l'économie française n'est pas très dynamique et que, oui, donc ce MBS aujourd'hui a multiplié, comme vous disiez, les partenariats, et donc on est un parmi d'autres, hein, mais assez loin derrière.
Alors juste un mot, est-ce qu'il l'a rejoint parce qu'il a quand même vendu du pétrole à la Chine en yuan ? Ce qui est quand même hallucinant quand on pense que Aramco, Arabie Saoudite, comment tu vendais un gramme de pétrole en dollars, non, ça n'existait pas.
Le grand changement, c'est le changement de pied avec les Américains. C'est-à-dire depuis 45, il y avait ce qu'on a appelé le fameux pacte de Quincy entre Roosevelt et le roi Ben Saoud, c'est-à-dire vous nous donnez du pétrole pas cher, nous on garantit votre sécurité. Ça a duré quasiment 50 ans, sauf que là avec MBS, les Américains qui les ont trahis un petit peu aussi, puis il y a des bisbilles, il y a eu le 11 septembre, il y a eu beaucoup d'irritants qui se sont accumulés entre Washington et Riyad, et la relation s'est un peu délitée, il y a un manque de confiance. On raconte en 2019 quand les Iraniens frappent l'Aramco, justement, les Américains ne réagissent pas. Trump dit, bah écoutez, ça c'est pas notre affaire. Donc là, les Saoudiens se retrouvent un peu tout seuls et se disent, il va falloir qu'on réfléchisse un peu différemment, d'où cette polygamie diplomatique, où on regarde 360, et les Américains, effectivement, restent importants, hein, sur le militaire, etc., dans les grandes négociations, etc., mais ils sont plus uniques, voilà. On a plusieurs c'est partenaires, d'ailleurs, fidèles, mais fidèles.
Ils ont rejoint les BRICS.
Oui, les BRICS. Et puis, le groupe de Shanghai. Ils sont très copains aussi avec les Indiens pour les routes commerciales. Donc, en fait, ils voient le monde 360. Et effectivement, c'est un peu ça.
Ce qui est nouveau.
Et ce qui revient, et qu'ils sont capables de mettre des bras d'honneur aux Américains. Quand Biden vient au moment du Covid et de l'Ukraine demander augmenter votre production de pétrole, bah, il dit non, moi j'augmente pas, je garde mes prix. Donc ils sont capables maintenant de dire non aux Américains.
Il a un sentiment de surpuissance et d'impunité en quelque sorte, vous dites de lui.
Ouais. Et puis c'est un développement auto-centré. Ouais. C'est-à-dire que c'est nous. Et puis maintenant, on va essayer de tirer parti de tous les partenariats. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, bah, la France, si vous pouvez nous donner quelque chose, c'est bien. Sinon, bah, on ira voir ailleurs.
Absolument.
Mais il exerce quand même un pouvoir fragile. Il est seul, il est solitaire, tout repose sur lui. Est-ce qu'on peut, l'éventualité d'un coup d'État, est-ce qu'on peut l'exclure ou pas ?
Alors, coup d'État, je ne sais pas, parce qu'il y a qui pourrait commettre un coup d'État ? L'armée saoudienne, non. La garde nationale, peut-être, qui était l'armée un peu des Bédouins, mais elle a été restructurée. Simplement, il y a quand même des réticences, il y a des raisons. Non, le risque pour lui est plus un risque d'un assassinat. Hein, il faut pas. En Arabie Saoudite, c'est déjà arrivé. Le roi Faisal a été assassiné par son cousin, et donc comme MBS a tordu le bras de beaucoup de membres de la famille régnante. Il est détesté. Oui,
il a vraiment beaucoup d'ennemis aujourd'hui.
Il a beaucoup d'ennemis. Il est allé jusqu'à assigner à résidence sa mère, justement dans les années 2017, parce qu'il ne voulait pas qu'elle puisse être jointe par d'autres qui auraient pu fomenter quelque chose contre lui. Donc c'est ça son risque, c'est pour ça, d'où son obsession sécuritaire.
Ça c'est le risque politique, et puis il y a aussi le risque sociétal. C'est-à-dire que l'Arabie, c'est un pays traditionnel, qui est quand même brutalisé, traumatisé avec toutes ces réformes. Encore une fois, il y a quelques années, la musique était interdite, y compris dans les restaurants. Ouais. Maintenant, il y a des technos partis, etc. Ça va très, très vite, et il y a toute une partie de la population aussi, il y a des pauvres en Arabie
Saoudite. Qui pourraient torpiller effectivement tout cela.
Qui ne sont pas à la même vitesse. C'est-à-dire que vous avez, le risque, c'est une Arabie à deux vitesses. Des jeunes qui sont super occidentalisés, etc.
Et
puis, toute une partie, mais une vaste partie de la population, c'est pas qu'ils n'en aillent pas, mais que ça va trop vite. Et donc, les tribus, les gens qui sont en province, parce qu'il y a Riyad, mais il y a toutes les provinces, et donc ça peut à terme.
Est-ce qu'il a réussi à neutraliser complètement les islamistes, style ou frères musulmans ou autres, ou pas ?
Oui, les religieux, les amis sous
relativement. Les religieux ont été mis sous les teignoirs, certains ont été mis en prison, justement il a fait des exemples. Les mosquées sont bien contrôlées, les prêches sont strictement contrôlées. Voilà, il n'est pas à l'abri d'un attentat, mais quand même il a mis au pas justement l'establishment religieux.
Eh oui. En un mot, comment vous avez réussi à mener cette enquête ? Parce que les journalistes en Arabie Saoudite ne sont pas trop les bienvenus, non ? Dites-nous.
C'était sur la durée, on a profité de nos voyages là-bas, et puis c'est vrai que les Saoudiens en Arabie ont du mal à parler. On a préféré les voir en dehors de l'Arabie, et puis on a vu aussi des personnes non saoudiennes à l'étranger, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup, comme vous l'avez compris, beaucoup, beaucoup voyagé, et donc qui ont fréquenté beaucoup de gens, mais ça reste un travail difficile parce que là-bas, même si maintenant, demain, vous pouvez prendre un billet d'avion, aller en Arabie, visiter les magnifiques sites nabatéens d'Aloula, vous prenez votre visa à l'aéroport, hein, c'est un pays ouvert. Quand vous êtes journaliste, en revanche, c'est toujours très compliqué d'obtenir un visa. Donc, ça a été assez compliqué, mais
vous avez tous les étrangers, hommes d'affaires, français ou autres, qui vous ont parlé.
Ben oui, parce qu'il faut attaquer par la bande. Mais ce qu'on a senti quand même, c'est que les Saoudiens ont peur. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chape de plomb, un climat, parce qu'il y a un grand chef et puis si vous êtes
qui a fait des exemples
et donc donc les gens sont un peu tétanisés. Les grandes fortunes sont toujours à l'étranger. Les grandes familles ne veulent pas réinvestir parce qu'ils se disent on va peut-être nous piquer notre argent. Il peut nous arriver quelque chose. Et ça aussi, parmi les points faibles de MBS dans son pari, c'est le côté financier. Ils font un pétrole assez haut et puis surtout, il faut que l'argent s'investisse. Si c'est toujours l'État saoudien qui investit, il y a un monnaie, il va manquer de cash. Et donc, il y a un monnaie, il peut y avoir un petit peu un ralentissement.
Et oui, les limites du modèle MBS. Christian Chénon et Georges Malbruno, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre MBS confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient, est paru chez Michel Lafon. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio.
Et je tiens à dire aux non-anglophones que MBS n'est pas Monsieur Bullshit, c'est Mohamed Ben Salman.
Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Eco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 euros seulement, osez Eco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Eco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver.
Carrefour.
Quand vous me dites, vous voudriez pas m'emmener à la mer ?
Eh bien, je vous réponds que le bon plan du week-end, c'est le dos de cabillaud au prix le plus bas de 16,99€ le kilo seulement.
Oh, si c'est la mer qui vient, c'est bien aussi.
Et si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 10 fois la différence. Et c'est jusqu'à dimanche chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Pêchez en Atlantique Nord-Est, détails sur carrefour.fr.
C'est parti pour les économies avec Monsieur Bricolage. Aujourd'hui et jusqu'à demain seulement. Avec la carte Monsieur Bricolage, recevez 15€ en bon d'achat sur tout le magasin, tous les 100€ d'achat.
Vive les économies !
Et vive Monsieur Bricolage !
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Conditions et magasins participants sur monsieurbricolage.fr.
Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de tomates rondes en grappe est à seulement 1,39€.
À ce prix-là, je me vois déjà avec mon assiette de tomates mozzarella avec un filet d'huile d'olive.
Et moi donc. Et vous savez quoi? Elles sont même origine France.
Elles ont vraiment tout pour elles, ces tomates.
C'est ça, le pouvoir d'acheter français chez Auchan. Auchan, avec plaisir. 1,39€, le kilo de tomates rondes en grappe. Origine France, catégorie 1, valable dans vos magasins Auchan participants.
Respire. Tu ressens cette liberté? Viens vivre l'incroyable. Ça y est, on y est. Hé, hey, regarde, je crois qu'on est suivi. Pas besoin de photos. Ça ne s'oublie pas, la lumière de la Méditerranée. J'aimerais vivre ici. L'expérience la plus immersive, c'est la réalité. Comunidad Valenciana, Méditerranée en live.
Vous êtes étudiante, porteuse de projet ou déjà entrepreneur? Ne ratez pas la 10e édition du BE Boss Tour. Une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin. Et de participer au BE Boss Awards. BE Boss Pays de la Loire, le 14 mai à la French Tech Nantes. Programme et inscription gratuites sur bi-a-bo2s.com. Avec Sud Radio, parlons vrai.
On va aux courses de chevaux dimanche? Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
Sud Radio.
Tipo
soir, je me fais.